Nous affirmons de Jésus-Christ qu'il a tout connu de notre condition, qu'il a tout connu de la condition humaine, excepté le péché. Il a tout connu de notre condition, vraiment. On pourrait faire une première objection. Il n'a pas été marié, il n'a pas eu d'enfant selon la chair. Certes, par son union au Père, par le mystère de la Trinité Sainte, il sait mieux que quiconque ce qu'est la paternité. Et s'il n'a pas connu l'engendrement selon la chair, il a eu, nous en sommes les signes vivants, une fécondité sans équivalent dans l'histoire. Au Nouveau Père, je cite souvent une très belle phrase de Claudel qui disait « À la naissance de l'enfant, il y a désormais ceci de changé entre moi et les hommes, que je suis le père de l'un d'entre eux. » Le Christ a été un père pour ses disciples. Il est surtout pour nous, pour ses disciples, le révélateur du Père. Et moi-même, qui suis appelé comme prêtre père, sans avoir d'enfant selon la chair, je me reconnais tel, je me reconnais père par les baptêmes que je célèbre. La naissance à la vie nouvelle, la naissance dans l'esprit. Et ça se passe un petit peu comme Joseph avec Marie. On peut dire que dans les baptêmes, Marie, c'est l'Église. Joseph, c'est le prêtre. Et tout enfant est comme un nouveau Christ. Je me reconnais également père par le sacrement de la réconciliation, par les pardons que je donne en confession. C'est le rôle du père, d'élever, surtout de relever. Et il le fait de façon d'autant plus convaincante qu'il apprend lui-même à demander pardon. Ce dimanche de la fête des mères, je vous l'ai dit en commençant, c'est une fête pour l'Église, notre mère, l'épouse du Christ. Le Christ a tout connu de notre condition. Deuxième objection, il est mort relativement jeune. Il n'a pas connu le grand âge. Troisième objection qu'on peut faire, qui est plus spécifique, propre à notre époque, il n'a pas connu le progrès dans son ampleur moderne. Il n'a pas connu le vertige technique, voire technologique, qui nous fait même aujourd'hui douter des limites humaines. Le Christ Jésus a tout connu de notre condition, sauf la paternité humaine, le grand âge et le progrès technique. On va mettre cette troisième objection de côté, parce que la puissance absolue de la divinité du Christ la rend dérisoire. Il ne faut pas être très grand pour s'enivrer de ses propres capacités, de ses propres forces. Mais je voudrais aujourd'hui me consacrer à la deuxième objection, l'expérience du grand âge. L'expérience du grand âge à cause de l'évangile qu'on vient d'entendre et de ce qu'il dit de la mémoire, l'Esprit Saint et la paix. La façon dont il associe de façon si forte la mémoire, l'Esprit Saint et la paix. La mémoire, c'est la souffrance des personnes très âgées. Comment est-ce qu'on sait qu'on vieillit ? Évidemment, on le sent dans son corps. Ça commence assez tôt, assez jeune dans la vie. Mais on le sent surtout dans sa tête par toutes ces petites trahisons quotidiennes de notre cerveau. Toutes ces défections incessantes. La difficulté croissante à mémoriser. Et puis, de façon plus large, le décalage que l'on éprouve avec les nouvelles générations. Ce décalage qui nous paraît de plus en plus grand plus on vieillit, en oubliant d'ailleurs qu'on a été comme elle. Le grand âge, c'est une lente sortie de ce monde. Et on peut le qualifier de martyr gris. Un peu comme les cheveux gris plus que les cheveux blancs. Le martyr gris, par différence avec le martyr rouge, qui est celui sanglant des persécutions. Il y a aussi le martyr blanc qui a succédé dans l'histoire, qui est celui de la vie monastique. Et il y a le martyr gris. Comme dit un chant très populaire, « Quand le feu devient cendre ». Le martyr gris a la pensée de tous ceux qui nous ont quittés. C'est cela la réalité de l'âge, du grand âge, du très grand âge. Tous ceux qui nous ont quittés et qui nous manquent. Toute cette nostalgie. Un gris qui tire parfois sur le mauve, couleur plutôt de pénitence, étant donné la part souvent de regret, de pardon manqué. Et la joie à laquelle le Christ nous appelle, appelle ses disciples au moment de son départ, « Si vous m'aimez, vous serez dans la joie puisque je pars vers le Père », c'est une joie en espérance. C'est l'espérance de son retour, de sa venue dans la gloire, c'est l'espérance aussi qu'il nous réunisse à tous ceux qui nous manquent. Il y a 20 ans cette année, le 1er octobre 1999, le pape Jean-Paul II a écrit une lettre aux personnes âgées. Pas très longue, très belle, très forte, où il leur attribue notamment la mission d'être, dit-il, gardien d'une mémoire collective. C'est une formule heureuse parce qu'il ne s'agit pas d'une mémoire individuelle, celle qui s'estompe, mais collective du destin de toute l'humanité. Le destin commun de l'humanité que l'Apocalypse présente de façon magnifique, la fin de nos conflits. C'est la paix que le Christ promet, c'est la paix que le Christ donne au soir de Pâques, le Christ ressuscité, la paix soit avec vous. Et il ajoute, recevez l'Esprit Saint, parce que la paix, c'est la marque de l'Esprit Saint. C'est le signe le plus fort de sa présence. Comment est-ce qu'on sait que l'Esprit Saint est présent? Par la paix. La paix qu'il donne, et Jésus dit, pas la manière du monde. La manière du monde, on peut imaginer que c'est effectivement simplement la fin du conflit. Mais qui nous fait trop souvent oublier toutes les victimes, c'est-à-dire les blessés, et ce qui l'accompagne aussi, le désir de vengeance. Dans les guerres, dans les conflits, comme dans la plupart des catastrophes, il y a en moyenne, c'est un chiffre que m'avait expliqué lors de conférences en son temps la Croix-Rouge internationale, 4 fois plus de blessés que de morts. Chaque fois qu'il y a effectivement un drame, on compte en nombre de morts, on oublie qu'il y a, pour des attentats par exemple, dans les conflits, 4 fois plus de blessés. C'est une chose de pleurer les morts, d'accompagner les familles. Qui s'occupe des blessés? Eh bien, vouloir la paix, c'est aussi, c'est l'autre volet, renoncer à la vengeance. Parce que la paix du Christ, la paix qu'il vient donner, qu'il nous demande de recevoir, de vivre, elle comprend ces deux aspects, la charité et le pardon. Le soin aux victimes, à toutes les victimes, à tous les blessés, et le refus de la vengeance. C'est ainsi que le Christ nous donne cette paix. C'est ainsi aussi que l'Esprit Saint nous fera souvenir de tout ce qu'il nous a dit, et pas seulement par ses actes. La façon dont il nous a montré l'exemple, dont le Christ Jésus s'est mis au service des plus petits, des plus faibles, dont il a lui-même donné le pardon, dont il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Dans sa prédication du Vendredi Saint cette année, le prédicateur de la maison pontificale, le père Cantalamessa, a rappelé que c'est ça le mandat de l'Église, la mission de l'Église. L'Église a reçu le mandat de son fondateur d'être du côté des pauvres et des faibles, d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Et il a ajouté, la deuxième tâche historique que les religions doivent assumer ensemble aujourd'hui, toutes les religions, outre de promouvoir la paix, c'est de ne pas rester silencieuse devant le spectacle qui se déroule sous nos yeux à tous. Ce spectacle du monde, nous le connaissons bien. Quelques privilégiés sur terre possèdent des biens qu'ils n'arriveraient pas à consommer du style vivre des siècles, quand des foules immenses de pauvres n'ont pas même un croûton de pain ni une gorgée d'eau à donner à leurs enfants. La pauvreté du grand âge. Le très grand âge, c'est ça, c'est un temps de pauvreté, d'appauvrissement du corps, de l'esprit, de démission des forces, de ralentissement. Cette pauvreté a l'avantage de réduire les écarts de richesse. À quoi ça sert d'être très riche quand on est vieux? De bénéficier de meilleurs soins, de plus de confort? D'avoir davantage de visites de la part des siens? Pas forcément plus fréquentes. D'avoir moins d'angoisse pour l'avenir? Mais il n'est pas sûr du tout que ces angoisses soient matérielles. Bien sûr qu'il y a des différences considérables de confort, d'attention et de traitement suivant les biens dont on dispose. Mais à l'approche de la mort, tout ça retrouve une juste place. Je rêve d'entendre un jour, ici ou dans une église, lors d'une célébration d'obsèques, lors de témoignages de petits-enfants. Je rêve d'entendre des petits-enfants, lors de ces témoignages, remercier leur grand-père ou leur grand-mère de leur avoir appris à prier, de leur avoir montré l'exemple de la confiance en Dieu, de l'abandon à l'Esprit Saint, de la mémoire des merveilles de Dieu, d'avoir été des Bibles vivantes, d'avoir gardé, comme le Christ nous demande, d'avoir gardé les paroles du Christ, de leur avoir transmises comme un trésor. Dans sa lettre aux personnes âgées, Jean-Paul II dit que l'esprit humain reste toujours jeune s'il vit tourné vers l'éternel. Toujours jeune. De cette éternelle jeunesse, il fait la plus vive des expériences lorsque, au témoignage intérieur de la bonne conscience, s'ajoute l'affection prévenante et reconnaissante des personnes aimées. L'homme alors, l'être humain, la personne, comme l'écrit Saint Grégoire de Nazianze, ne vieillira pas dans son esprit. Il acceptera la dissolution comme le moment décidé selon la loi de la liberté humaine, avec douceur. Il passera dans l'au-delà, où il n'y a ni maturité, ni vieillesse, mais où tous ont la perfection de l'âge spirituel. Dans quelques jours, nous fêterons l'Ascension, et m'est revenue en mémoire cette parole du psaume qui dit « Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse ». Belle image de l'âge, de la perfection, de l'âge spirituel. Beau symbole de l'évangile de Saint Jean. C'est le psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours. Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. L'amour garde toujours éternellement jeune.